France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Les choix qu'on fait aujourd'hui, c'est vous qui allez les vivre comme adulte. Et donc, l'idée que vous puissiez, vous, me dire quelles sont les choses qui vous font réfléchir, les idées qui sont les vôtres sur ces sujets, vos propres préoccupations, est un moment important de ce débat.
Vous avez reconnu cette voix, Natacha. C'était vraiment juste pour vous et pour vous faire plaisir. Le président de la République, jeudi, qui rencontrait des enfants près d'Angers. C'est la suite du feuilleton du Grand Débat. Et enfin, il a été parlé avec des petits-enfants.
Mais ça nous manquait. On se souvient de François Hollande expliquant qu'il était le président des bisous. Là, Emmanuel Macron continue sa campagne électorale auprès de ceux qui n'ont pas encore le droit de vote. Bon, je pense que ça apporte énormément au Grand Débat national. On aura très certainement un compte-rendu passionnant qui va bouleverser les équilibres et remettre, enfin, régler cette crise de la démocratie représentative que nous voyons depuis quelques temps.
Gilles, je comprends la pointe d'ironie de Natacha.
Après le débat avec les intellectuels dont vous étiez, le débat avec les enfants.
Oui, il ne les a pas gardés pendant 8h15.
C'est vrai.
Donc, je comprends la pointe d'ironie. Pendant la campagne présidentielle, si vous vous souvenez, il y a eu des moments qui ont été des petits moments parfois intéressant, avec les enfants, au tableau, où tous les candidats étaient passés, et pas seulement Emmanuel
C'était
Macron.
C'était dans l'émission Au tableau, qui était diffusée sur C8.
Absolument. Et où Emmanuel Macron avait assez bien défini ce qu'était sa stratégie, le macronisme et le ni gauche ni droite. Donc parfois, avec les enfants, il y a des moments de vérité.
Donc la vérité ne sort pas de la bouche des enfants, mais de celle du président de la République. C'est ça que
vous
dites.
Devant les enfants.
Et on va commencer plus sérieusement avec une semaine très politique. Et d'abord le remaniement et surtout des départs au gouvernement. Nathalie Loiseau pour conduire la liste de la majorité aux élections européennes. On en parlera tout à l'heure. Mais aussi Benjamin Griveau et Mounir Majoubi, tous les deux ministres et qui abandonnent le navire gouvernemental pour partir à la conquête de la mairie de Paris.
Oui, évidemment, oui. Je suis candidat pour que les Parisiens retrouvent le plaisir et la fierté de vivre à Paris.
On n'a pas le même parcours de vie. Moi, il se trouve que je suis né à Paris, d'une famille populaire, que j'étais entrepreneur, délégué syndical, que toute ma vie, je me suis engagé pour le numérique. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant aujourd'hui pour raisonner avec les Parisiennes et les Parisiens.
Benjamin Griveau et Mounir Majoubi, j'aimerais que vous nous expliquiez, Gilles, ce que vous avez compris. On pensait qu'il y aurait un remaniement technique, comme on dit, avec le départ de la ministre de l'Europe pour conduire la liste aux européennes. Mais deux ministres, deux proches d'Emmanuel Macron, qui quittent le gouvernement pour s'engager dans les municipales, alors que c'est encore loin. C'est dans un an qu'il y a un scrutin, les européennes qui arrivent d'abord. C'est un signal assez terrible.
Oui, la bataille de Paris est lancée. Au sein de La République En Marche et au-delà, c'est une des villes dans lesquelles le nombre de candidatures a fleuri. Au-delà, si on essaie de réfléchir à la signification de ces trois départs, pour dire les choses de manière un peu abrupte, je crois que le départ de Nathalie Loiseau est sans importance. Je ne dis pas ça par rapport...
Non, mais...
Je ne dis pas ça par rapport à elle, mais par rapport à ce qu'est aujourd'hui la fonction de ministre des Affaires européennes. C'est-à-dire que les affaires européennes sont très importantes, le ministère des Affaires européennes est très marginal. Les affaires européennes, elles se traitent à l'Élysée. Quand il y a un Conseil européen qui réunit les chefs d'État et de gouvernement, le ministre des Affaires européennes n'est même pas dans la salle. Les affaires européennes, elles se traitent avec les ministres, notamment le ministre des Finances et le ministre de l'Agriculture. Et quand il y a une crise, le ministre en charge. Elle se traite à une administration d'élite qui s'appelle le secrétariat général aux affaires européennes, qui coordonne les affaires européennes et qui ne dépend pas du ministre des Affaires européennes.
Donc elle ne servait à rien.
Donc aujourd'hui, le ministre des Affaires européennes ne sert pas à grand chose et ce départ, il est très important parce qu'elle prend la tête de liste, mais il est moins important. En revanche, le départ de Benjamin Griveau et dans une moindre mesure celui de Mounir Majoubi ont du sens. Alors il y a le sens politique, la bataille de Paris, et puis il y a, je crois, un autre sens sur lequel il faut réfléchir. La Ve République s'est construite en réaction à une IVe République qui était dans l'instabilité. En 12 ans de IVe République, 24 gouvernements. On voulait de la stabilité. Il y a une stabilité présidentielle, il y a une relative stabilité du Premier ministre et il y a une très forte instabilité gouvernementale. C'était vrai avant, c'est encore plus vrai avec Emmanuel Macron. 14 départs depuis sa nomination, on n'avait jamais vu ça,
dont des ministres,
très importants. Et on parlait à l'instant du ministère des Affaires européennes. Depuis 2002, c'est la 14e ministre des Affaires européennes. Donc l'instabilité, là, on change pratiquement chaque année.
Natacha.
Oui, mais vous le disiez, Gilles, ministre des Affaires européennes, ça n'a pas grand sens. Et je mets au défi qui que ce soit de dresser un bilan de l'action de Nathalie Loiseau.
Mais la bataille de Paris est ouverte.
Quelques interventions et d'incarner aujourd'hui une forme de technocratie qui est exactement ce qui n'est pas à faire aimer l'Union européenne. Oui. Non, mais
vous posez les bases de votre réflexion.
On est impatients.
N'est-ce pas?
Benjamin
Griveaux et Mounir Majoubi sont des symptômes de ce qui est en train petit à petit de s'affirmer dans la démocratie française. Je ne suis pas sûre que ce soit un excellent signe, à savoir le fait que il vaut mieux peser dans une grosse métropole, être à la tête d'une métropole, que d'être ministre. C'est-à-dire que c'est l'aveu absolu de l'impuissance totale des ministres et de leur incapacité à agir. En revanche, être un baron local, être puissant, semble beaucoup plus intéressant. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit plus intéressant pour, moderniser la France, la gouverner, répondre aux attentes des citoyens. En revanche, en termes de poids politique, visiblement, ça attire les ambitions.
Est-ce que c'est pas aussi un aveu, Gilles, celui que La République En Marche a besoin de s'ancrer localement? Ça lui fait défaut puisque c'est un jeune parti. Et qu'en plus, Paris, c'est le cœur du cœur de l'électorat qui a le plus massivement voté Emmanuel Macron.
Paris, c'est le cœur du cœur de l'électorat, c'est le cœur du cœur des adhérents de La République En Marche. Terra Nova, le think tank, avait fait une étude auprès des adhérents de La République En Marche. La surreprésentation parisienne était absolument considérable. Ça sera une des batailles, pas la seule, mais une des batailles les plus symboliques et les plus indécises pour un parti qui n'a aucune assise locale. Sur l'autre point, je partage ce que dit Natacha, c'est-à-dire qu'il y a une frustration ministérielle qui ne date pas d'aujourd'hui, avec le sentiment de beaucoup de responsables politiques qui accèdent aux responsabilités, qu'en réalité, ils ont peu de pouvoir. Et s'agissant de Benjamin Griveaux, c'était ça démultiplié, puisque le seul pouvoir qu'il avait était le ministère de la parole, puisqu'il n'avait pas de portefeuille.
Oui, donc... mais c'est un fidèle parmi les fidèles. Il a accompagné Emmanuel Macron dès les tout débuts de sa conquête du pouvoir. C'est quand même curieux d'abandonner quelqu'un dont on a été si proche au milieu du guet.
Oui, alors ça peut être lu, il y a ce désir de passer de la parole à l'action, d'une forme de dépendance très forte à une volonté peut-être d'autonomie, mais c'est aussi pour Emmanuel Macron la poursuite du combat par d'autres moyens, parce que si d'aventure Benjamin Griveaux ou le futur candidat de La République En Marche venait à gagner Paris, ce serait un symbole très fort pour les élections municipales.
Encore un mot, Natacha ?
Encore un mot pour constater malgré tout que c'est un paradoxe absolu, à savoir que on a identifié depuis l'automne ce qui pêchait au cœur de la Macronie, c'est-à-dire cette difficulté à tout simplement penser le pays comme une communauté nationale avec ses diversités, c'est-à-dire cette espèce de côté hors sol de la Macronie qui ne comprend absolument pas ce que sont par exemple des classes moyennes inférieures dans des provinces où les territoires se désertifient, où les services publics reculent. Et qu'est-ce qu'on voit? La seule conquête que peut aujourd'hui espérer la Macronie, c'est Paris. C'est-à-dire que c'est un parti politique. Je vous dis pas ça, mais en général, dans Paris, et on le sait très bien, il y a justement un effacement des classes moyennes et une polarisation entre des populations extrêmement pauvres et des populations qui sont des populations favorisées. C'est le cœur de l'électorat d'Emmanuel Macron, et le départ de Benjamin Griveaux incarne finalement le fait que la Macronie a tendance à se caricaturer elle-même et à aller vers son propre public au lieu de conquérir et d'essayer de convaincre et de rassembler.
Et à propos de la Macronie, justement, on n'a pas tout dit.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Nous, on est convaincus que la politique ne sera plus jamais comme avant, qu'elle ne reviendra pas ce qu'elle a été. Donc que la gauche et la droite, telles qu'elles ont vécu, c'est fini, c'est clair.
Un proche, un autre proche de la première heure du président de la République qui a choisi de quitter lui, non pas le gouvernement, mais l'Élysée, pour publier un livre sur le progressisme, c'est l'explication officielle, avec un autre ex-conseiller d'Emmanuel Macron, David Amiel. Le titre « Le progrès ne tombe pas du ciel ». Nous allons débattre dans cette thèse que défend ce livre dans quelques semaines avec Ismaël Emelien. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont deux théoriciens du macronisme et Plantu faisait un dessin assez formidable dans Le Monde cette semaine où l'on voyait Emmanuel Macron à l'Élysée comme échoué sur une île déserte. Est-ce que c'est finalement la meilleure conclusion de ce qui se joue aujourd'hui autour du président de la République, Gilles ?
Ah, il y a une vague de départ, une vraie vague de départ en l'espace de peu de temps. On a parlé de Benjamin Griveaux au gouvernement fidèle depuis le départ. À l'Élysée, c'est plus impressionnant encore. Et je crois que c'est pas faire l'analyse, l'exégèse de la cour que de regarder ça, mais essayer de comprendre quelle est la signification que ça peut avoir. Et qu'est-ce que ça nous dit d'Emmanuel Macron ? Qu'est-ce que ça nous dit du pouvoir aujourd'hui ?
Parce qu'en général, on ne quitte une cour qu'après une disgrâce. C'était la règle, en tout cas sous la monarchie. Là, en l'occurrence, c'est pas forcément le cas.
Ce sont des choix. Et ça, c'est sans doute ça qui est intéressant.
Natacha ?
Ce sont des choix. En l'occurrence, le départ d'Ismaël Emelien n'est peut-être pas forcément dû uniquement à ce besoin d'écrire un livre qui serait une théorisation du progrès et du progressisme.
C'est l'explication officielle.
Oui, enfin, on reparlera du fond du livre très bientôt, j'espère, et de, par exemple, ces brillantes envolées sur la séparation entre conservateurs, libéraux et marxistes, qui sont un résumé de la vie politique façon le progressisme pour les nuls.
Là aussi, vous êtes impatiente.
Ah, je suis très impatiente, puisque
Mais en l'occurrence,
c'est peut-être aussi dû à l'affaire Benalla. Et c'est sans doute, d'ailleurs c'est très très frappant de voir comment cette simple affaire a petit à petit gangréné totalement l'ensemble de l'entourage d'Emmanuel Macron jusqu'à fragiliser les plus proches. On verra en effet quelle est la place d'Ismaël Emelien dans cette affaire, mais de fait il y a là quelque chose qui révèle une fragilité. Simplement, il y avait un titre cette semaine, je crois que c'était le Figaro qui a titré de façon assez jolie « Emmanuel Macron se lance dans la traversée du quinquennat en solitaire ». Cela devient extrêmement inquiétant pour la capacité d'Emmanuel Macron à comprendre le pays, à le sentir, à réformer sa propre politique et non pas seulement le pays, puisque aujourd'hui il y a urgence. Je pense que cette fragilité n'est absolument pas souhaitable.
Gilles.
Ouais. En fait, moi, l'interrogation qui est la mienne, non pas sur le départ d'Ismaël Emelien, mais sur la conjonction de 4 ou 5 départs de très proches collaborateurs du président. Il y a une explication naturelle et qui, pour partie, est sans doute juste, qui est la fatigue. Et l'exercice du pouvoir est épuisant. C'est une folie.
Mais plus qu'avant ?
Sans doute plus qu'avant, pour des raisons très simples. La vie de beaucoup de salariés est plus fatigante qu'avant avec l'irruption du numérique. C'est la même chose pour les collaborateurs politiques, avec en plus ce qu'est la politique, les chaînes d'information continue, quelque chose qui ne s'arrête jamais. C'est encore plus vrai à l'Élysée avec un Emmanuel Macron qui ne dort pas. Donc il y a cette explication-là. Mais quand vous avez 4 ou 5 conseillers qui démissionnent en même temps, cette explication-là ne peut pas être suffisante. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et notamment, est-ce qu'il y a une déception ? Et est-ce qu'il y a une déception politique ? Je ne le crois pas. Est-ce qu'il y a une déception personnelle ? Peut-être pour partie parce qu'il est très exigeant. Et peut-être qu'il y a autre chose, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur Benjamin Griveaux, qui est une déception institutionnelle. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont à un poste d'influence, dans un lieu d'influence, et que finalement, l'Élysée, ce n'est que ça.
Gilles, vous êtes extrêmement indulgent dans la mesure où toutes les questions que vous évoquez sont évidemment mêlées. La question institutionnelle, elle est liée aussi à la façon dont un homme utilise ses institutions. Et elle est donc liée à la psychologie de cet homme et à son rapport à la démocratie, à sa vision du pouvoir. Or là, nous avons quelqu'un qui petit à petit apparaît comme n'ayant pas pensé la démocratie, ou plutôt ne la pensant que à travers l'idée que lui est capable de comprendre et de décider. Et c'est ça qui se joue, c'est cette espèce d'autoritarisme et de pouvoir totalement personnel qui s'amplifie petit à petit, qui explique aussi les phrases d'Emmanuel Macron, son incapacité à entendre quand il y a une part de la population qui crie sa colère. Je pense que ses plus proches collaborateurs en ont assez. Et même ce mythe selon lequel ce président ne dort pas, pardon, mais c'est une vision de la politique et une vision de
même
ce qu'est un
président
qui est effarant. Mais pas, même ça, je ne suis pas la seule à faire le constat, qu'on est là dans une espèce de discours, de storytelling sur la performance, sur la capacité du surhomme à dépasser son propre corps, c'est absolument aberrant. Je préfère qu'un président de la République dorme et qu'il pense, surtout qu'il ait des moments, François Mitterrand, de ce point de vue-là, le théorisait, il faut des moments d'abstraction et des moments où on prend du recul.
Un mot, Gilles, et on passe au sujet suivant.
Oui, le paradoxe, c'est que les collaborateurs du président auraient pu, au contraire, bénéficier de cette concentration du pouvoir à l'Élysée plus forte qu'auparavant. Et moi, l'intuition que j'ai, c'est que tel n'est pas le cas. Alors peut-être que ça tient à l'exercice personnel du pouvoir à l'intérieur de l'Élysée par le président de la République, au fait que peut-être comme François Hollande, il ne veut pas réellement avoir de collaborateurs, mais je crois qu'il y a cette déception institutionnelle par rapport à ce qu'est la politique.
Ça tient aussi au fait que ce sont tous des clones, c'est-à-dire que ils sont tous issus des mêmes corps, ils ont tous à peu près le même parcours.
Pas
ils
Ismaël ont tout... Emelien pour le coup.
Non, Ismaël Emelien en revanche fait partie de l'autre pôle, c'est-à-dire que vous avez le pôle inspection des finances et vous avez le pôle communicant ancien strauss-kahnien, c'est-à-dire que ces deux histoires se sont rencontrées autour d'une même vision de la gouvernance, de l'économie, et vous n'avez strictement personne là-dedans qui ait une connaissance du réel, de la vraie vie, de l'entreprise. Vous avez là la rencontre de technocrates absolus, et ça a toujours été le cas dans une république, mais c'est amplifié là. Je pense qu'Emmanuel Macron a commis l'erreur de ne pas s'entourer de gens différents de lui.